Vous écoutez Transistor.
C'est l'Odyssée des ondes.
À Plébin.
Avec le collège Louis Aymon.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Courtade, directeur du GEPAN. Nous allons lui poser des questions pour comprendre ce qu'est le GEPAN et en quoi consiste son travail.
Mais d'abord, que veut dire le GEPAN ?
Donc, le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un service du CNES, dont le Centre national d'études spatiales. Et sa mission, c'est la collecte, l'analyse et l'enquête et la publication de cas d'observation étranges qui nous sont parvenus et rapportés par des témoins sur le territoire national. Et nous, on est chargés de tenter d'expliquer ce que les gens n'ont pas réussi à comprendre du point de vue de leur observation en déployant une méthodologie d'enquête bien définie par le GEPAN.
Quels outils et matériels utilisez-vous ?
Donc, on utilise plutôt des outils au GEPAN. Donc, on a tout un panel d'outils qui nous permettent d'aider aux enquêtes. Hein. Donc, on a des outils qui sont labellisés GEPAN, qui sont mis à disposition des enquêteurs et qui vont permettre de dresser à partir des constats d'observation et des phénomènes qui sont connus, de comparer justement l'observation à un phénomène connu pour voir qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'observation par rapport à des éléments qui nous ont été rapportés et qui sont indiscutablement réalisés au moment de l'observation. Et le but étant d'utiliser ces outils pour réduire l'étrangeté qui a été perçue par le témoin qui n'a pas su justement reconnaître potentiellement un phénomène connu.
Quels outils et matériaux utilisez-vous ? Avez-vous un laboratoire ?
On n'a pas un laboratoire proprement dit. Tous les outils que l'on utilise, ils sont disponibles et on les met à disposition des enquêteurs via un site internet spécialisé, privé, du GEPAN. Et je dirais, on pourrait assimiler ce laboratoire, je dirais, à une plateforme d'outils numériques qui permettent aux enquêteurs de travailler. Et qui nous permet notamment également de communiquer avec eux et de partager leur expérience et d'interagir au moment de l'enquête.
Combien avez-vous de télescopes ?
Alors des télescopes, le GEPAN n'en a pas forcément en propre pour sa mission. Hein. On utilise les télescopes du CNES ou des télescopes qui sont mis à disposition du CNRS, hein, qui sont utilisés pour d'autres besoins que le besoin de la surveillance pour les pans. On a par contre également accès à des réseaux de surveillance, ce qu'on appelle des bolides. Hein. Donc il faut savoir que en France notamment, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Fripon, qui est un réseau de caméras qui sont placées sur le toit de gens qui sont volontaires sur le territoire national, qui permettent de scruter le ciel pour voir justement et comptabiliser ce qu'on appelle les étoiles filantes, hein, qui sont des météorites qui rentrent sur le territoire national, qui rentrent sur Terre et notamment au-dessus du territoire national, donc qui tombent potentiellement en France, pour pouvoir dans un premier temps les comptabiliser et dans le cadre d'applications scientifiques de récupérer potentiellement ce qui resterait au sol de ces météorites pour faire des études dessus, sachant que les météorites sont des témoins et des messagers, des témoins des temps anciens, hein, des temps qui étaient pré-création du système solaire notamment.
Étudiez-vous aussi les ondes non expliquées ?
Alors on n'étudie pas, on est à même d'analyser des enregistrements, hein, qui sont soit des ondes de radar, soit des images à pleine de longueur d'onde. On a des outils qui nous permettent justement d'analyser les enregistrements qui ont pu être faits par les témoins de ces phénomènes aérospatiaux identifiés, qui ont d'eux-mêmes fait une vidéo, capté un son ou à avoir toute autre méthode de détection. Et si on considère que cette méthode de détection est fiable, avec tous les experts qui sont disponibles au CNES pour se faire vraiment un avis sur la recevabilité de cette preuve d'observation qui est un enregistrement, on le verse au dossier et il nous sert pour l'enquête.
Quels objets peut-on observer? Quels objets devez-vous souvent analyser?
Sur le terme général d'observation, le métier de l'observation du ciel, donc, qui est fait par les astronomes, dont le corps d'astronomes du CNRS, pas du CNES, qui est une communauté scientifique qui est chargée de voir un petit peu la voûte céleste, ils sont amenés à observer plein de choses, donc les planètes du système solaire, c'est celles que l'on voit le mieux et c'est quasiment les seules que l'on voit, et ensuite d'essayer de détecter par des mouvements célestes, des mouvements d'étoiles un petit peu sophistiqués, justement s'il n'y aurait pas en orbite autour d'autres étoiles des planètes qui ne sont pas visibles, parce qu'elles sont très très loin de nous, mais qui vont perturber, je dirais, le mouvement céleste, de là à dire que par les lois de la gravité, les lois universelles de la gravité, vu que le mouvement de l'étoile est perturbé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Et ça nous conduit à repérer ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se trouvent à l'extérieur du système solaire et qui orbitent autour d'autres étoiles.
Vous intéressez-vous aux météorites, aux étoiles filantes ?
Oui, on s'intéresse aux météorites. On travaille avec l'organisme en France qui s'occupe des météorites, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle qui se trouve à Paris, avec qui on a des liens. Je vous ai parlé tout à l'heure du réseau Fripon. Le réseau Fripon est un réseau de sciences participatives qui est piloté par le Muséum National d'Histoire Naturelle, et c'est surtout eux qui disposent des collections de météorites les plus importantes au niveau français, et qui ont des météorites de toute origine, de tout âge, qui sont tombées partout dans le monde, et ces météorites, bien sûr, comme je vous dis, ce sont des messagers des temps primitifs, des temps qui précèdent la création du système solaire, et quelquefois même qui peuvent même avoir une origine antérieure à la création du Soleil. C'est quand même une source d'information très importante sur ce qu'était l'univers dans les temps passés.
Est-ce que vous avez beaucoup d'observations en lien avec les satellites Starlink, comme les traînées lumineuses dans la nuit ?
Mais on a énormément de témoignages, et maintenant ça nous embête également beaucoup, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a actuellement à peu près 10 000 satellites Starlink qui sont en orbite autour de la Terre, une orbite très basse, ils sont à peu près à 550 km d'altitude, et ils provoquent justement parfois... Alors les satellites Starlink ne produisent pas de lumière, ils n'ont pas de phare, ils n'ont rien. Par contre, dans certaines configurations, ils peuvent refléter la lumière du Soleil, voire la lumière indirectement qui vient du reflet du Soleil sur la Lune. Et ça va provoquer justement des reflets qui vont être visibles par les gens, sur Terre, ou des pilotes d'avions qui vont voir ça dans leur horizon. Mais là où c'est le plus gênant, c'est pour les astronomes, où les astronomes, lorsqu'ils font des observations, où ils ont besoin d'accumuler du temps d'observation, du temps d'imprégnation de leur capteur d'image pour... regarder des phénomènes très peu lumineux, donc ils font des accumulations d'images pour récupérer un maximum de lumière, donc ils ont bien réglé leur appareil photo, mais pendant tout le temps qu'ils accumulent des images, il y a des satellites Starlink qui vont passer entre ce qu'ils regardent et le télescope, et ça va donner des traînées, et ça gêne beaucoup la communauté des astronomes. Sur Terre, il y a une pollution lumineuse qui est due à l'éclairage public et à bien d'autres choses, mais dans l'espace, actuellement, il y a une pollution qui est due à l'encombrement de l'orbite proche de la Terre par actuellement la méga constellation Starlink. Demain, ça sera une méga constellation chinoise qui va prendre place, puisque c'est en cours, peut-être deux. Il y a une constellation en Europe qui est en cours et une autre qui va arriver. Et tout ça, ça va forcément... accroître le peuplement de l'orbite proche de la Terre, et donc des pollutions qui seront néfastes pour l'astronomie, ça c'est sûr. Bon, il y a quelques astuces pour effacer numériquement ces traces-là, mais c'est jamais une image brute. Et malgré tous les efforts, actuellement, le business prime sur la science.
Il y a-t-il des gens qui créent des fausses soucoupes volantes, qui créent des fakes ?
Oui, il y en a. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du GEPAN, on analyse très fortement les témoignages et on a un logiciel là, de traitement d'images et surtout d'authentification d'images qui a été développé par le CNES GEPAN et un industriel qui est mis à disposition de tous les enquêteurs, qui permet d'analyser tous les supports vidéo ou photos que l'on reçoit pour vérifier que c'est bien une photo non trafiquée, non filtrée, qui n'est pas générée par l'intelligence artificielle, etc. Et ça, c'est un logiciel qui a été développé avec de l'argent du CNES et de l'argent d'un industriel. Et cet industriel, il vend ce logiciel qu'on peut acheter si on veut s'en servir pour éventuellement détecter pour autre chose que des activités liées au GEPAN des images qui sont pas réelles. Donc tout ce qui est processus d'authentification d'images pour des applications dans le judiciaire ou autre, ça passe par le même logiciel qu'on utilise au GEPAN.
Êtes-vous des espions de l'espace ? Travaillez-vous dans le secret ?
Alors, on n'est pas dans le secret. Au contraire, hein, donc le GEPAN, ça veut dire le groupe études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Le I d'information, il est central au niveau du sigle du GEPAN et il est central dans notre mission. La mission du GEPAN telle qu'il existe depuis... Bon, le GEPAN existe depuis 50 ans, bientôt, mais le GEPAN actuel, il existe depuis 20 ans. Il a été créé en 2005. Bientôt 21 ans. Et information, c'est au centre du cycle, c'est au centre de nos missions qui sont la transparence. Tout ce que l'on fait, tous les travaux que l'on fait, ils sont publiés sur un site internet qui s'appelle knesgepan.fr. Et vous avez ici en toute transparence tous les travaux qui sont réalisés depuis pas mal de temps et qui sont voués à pouvoir être consultés dans le monde entier. Et on n'est absolument pas contraint par des activités secrètes, bien au contraire. On est là pour renseigner les gens de façon tout à fait objective et pour justement, quelquefois, essayer de briser cette image de secret, cette image de « on ne nous dit pas tout », qui est tronquée. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Nous, on est dans une transparence totale et c'est au cœur de nos missions. Et moi, en tant que directeur du GEPAN, je suis chargé de veiller à ce que cette transparence, elle se perpétue. Voilà. Et on a un organisme, en plus, le GEPAN, comme c'est quelque chose justement où on va parler d'OVNI, on va parler même sans le vouloir d'OVNI, d'extraterrestres, même si ce n'est pas notre mission, on a un organisme qui surveille le GEPAN, hein, qui est piloté par un groupe d'experts hein, à qui je rends compte de tous les travaux que je fais hein, au GEPAN, hein, qui sont faits par les enquêteurs, et qui veille à ce que... on n'outrepasse pas nos missions en partant sur des méthodes d'investigation qui s'écartent de la science, d'une méthodologie scientifique, et qui verseraient plutôt sur des méthodologies idéologiques. Et ces méthodologies idéologiques, c'est elles qui nous conduisent souvent à dire que voilà, c'est le secret, on ne peut pas tout vous dire, voilà, ce sont des choses qui ont été... qui sont bien imprégnés dans l'image des gens. Mais il n'y a absolument rien de secret dans l'étude des phénomènes aérospatiaux identifiés en France.
Nous écrivons une fiction sur la vie à Plébon en 2075. Pensez-vous que dans 50 ans, nous aurons rencontré des extraterrestres et ce possible ?
Je ne sais pas. Pour le moment, le GEPAN, et que ce soit le GEPAN ou où tous les organismes qui travaillent un petit peu dans le domaine n'ont aucune preuve de présence extraterrestre ailleurs que sur Terre. Hein. Voilà, donc il faut quand même rester humble par rapport à ce que l'on sait de l'univers. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grandeur de l'univers, de choses que l'on est à même, nous, de pouvoir voir depuis la Terre. Il y a une science qui s'appelle l'exobiologie, donc, qui est dans l'étude des recherches de marqueurs de la vie ailleurs que sur la Terre. Donc, moi, j'ai travaillé un petit peu dans le passé, dans cette discipline-là, où on s'attache justement à rechercher des marqueurs de la vie ailleurs. Donc, déjà, des marqueurs de la vie sur des planètes du système solaire, qui sont globalement relativement atteignables, c'est-à-dire qu'on peut y aller. Bon, ça coûte très cher, ça prend du temps, mais on sait le faire. Et pour le moment, on n'en a pas trouvé. On essaie de voir des méthodologies pour voir si certaines planètes peuvent avoir des atmosphères proches de celles de la Terre, être dans des conditions d'éclairement de leur étoile qui permet de préserver l'eau sous forme liquide, c'est-à-dire donc de pouvoir abriter potentiellement une forme de vie, parce qu'on sait la reconnaître. Mais on ne saurait reconnaître qu'une forme de vie qui est proche de la nôtre. La vie, je suis pas spécialiste de tout ça, mais elle pourrait prendre bien des formes, dont nous on s'attache à essayer de reconnaître une forme de vie proche de la nôtre. Et essayer de reconnaître des formes de vie inconnues, là aussi, c'est pas forcément scientifique. Il y a une part d'idéologie qui n'est pas prise en compte par le GEPAN en tout cas, ni par le CNES, ni par la NASA, ni par les organismes qui traitent des affaires spatiales à travers le monde. Alors, est-ce qu'on aura découvert une forme de vie et qu'elle aura visité Pleben dans 50 ans ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. L'absence de preuve, c'est pas la preuve de l'absence. Voilà. Donc, c'est possible. On ne pense pas d'un point de vue science que l'univers soit potentiellement habité par des formes de vie. Les gens travaillent dans ce sens-là et pensent que c'est une hypothèse qui est plausible. De là, ce qui vient nous visiter, vu les tailles, les distances, les temps, les constantes de temps, c'est quand même beaucoup plus improbable.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Vous écoutez Transistor.
C'est l'Odyssée des ondes.
À Plébin.
Avec le collège Louis-Aymon.